Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numéro 1.
This is Europe number 1.
Reculez ! Mais c'est une charge ! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS se font. On formait un espèce de toit avec leurs boucliers.
Roulez avec Europe 1.
Oui, 48-85. 48-85, Marie-José Perret est championne olympique.
Pierre Lescure.
Et voilà, c'est SNC qui recommence.
Voici Jacques-Yves Cousteau, que je suis particulièrement heureux d'accueillir en public, en direct aujourd'hui, avec tous les auditeurs et les amis d'Europe 1.
On va rire, on va chanter et s'amuser.
Bonjour à tous. Le Cisco avec Jean-Paul Roulant, Jacques Roulant, Aaron Kay.
Bonjour à tous, nous voici comme chaque dimanche à nouveau réunis dans l'un des studios de la rue François 1er, siège de notre station à laquelle je vous sais fidèle, pour une nouvelle session des Enfants d'Europe 1. Aujourd'hui, la famille se réunit autour d'un de ses grands patrons de l'information, un de ces hommes à la carrière impressionnante et multimédia, tour à tour homme de radio, de presse écrite, de télévision, qui a toujours conservé pour Europe 1 un attachement réel et sincère, comparable à celui que peut avoir un navigateur pour son port d'attache ou un explorateur pour sa première aventure. Il est aujourd'hui vice-président de TF1. Je suis très honoré d'accueillir autour des Enfants d'Europe 1 monsieur Étienne Moujotte. Bonjour Étienne.
Bonjour. Je suis très heureux d'être là.
Très heureux. Mais c'est ça, c'est formidable ça. Je veux dire, j'ai eu l'impression que vous aviez envie de faire cette émission.
Oui, parce que je me retrouve dans ce studio qui était le studio du Club de la presse d'Europe 1, qui aujourd'hui est le studio Ruquier et de bien d'autres émissions d'Europe. Et j'ai l'impression, effectivement, de retrouver la famille.
Le générique qu'on vient d'entendre, c'est déjà tout un ensemble de souvenirs qui reviennent tout d'un coup.
Vous voyez, c'est le carillon. Moi, quand j'ai pris la tête de la direction de la formation en 1974, on voulait changer un certain nombre de choses. Et j'ai dit, il y a une chose qu'on ne changera pas, c'est le carillon d'Europe 1, qui marque les heures, qui pour moi était un peu l'ancrage d'Europe 1 dans son histoire.
Vos premiers souvenirs de radio sur cette antenne, ce sont ceux de l'auditeur ou ce sont ceux du journaliste?
De l'auditeur. J'ai un souvenir précis. Le lendemain du premier tour de 1965, Claude Thérien, qui était le grand éditorialiste, avait commencé son papier. Moi, j'étais auditeur parce que je travaillais à l'époque à France Inter. Il avait commencé son papier de la manière suivante. Ballotage. Oui, il y a ballotage. Et c'était évidemment le ballotage du général de Gaulle. Et donc Europe, c'est une multitude de souvenirs, alors même que je n'y travaillais pas encore, qui a bercé ma vie de jeune homme, d'étudiant, et qui était un petit peu le rêve inaccessible. Est-ce qu'un jour, je pourrais franchir les portes d'Europe 1 et peut-être même un jour parler au micro d'Europe? C'était ça mon rêve à 17, 18 ans, 19 ans.
Journaliste, vocation qui serait née du fait d'Europe 1, ou c'est une vocation qui est venue progressivement, ou bien c'est par hasard un concours de circonstances?
Non, c'est j'ai fait pas mal de syndicalisme étudiant, et j'ai vu ce qu'était les coulisses de la politique, à l'UNEF. Et je me suis dit, tu ne feras jamais de politique, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de décrire ce qui se passe, d'analyser, de faire connaître, et ce jour-là, j'ai eu envie de devenir journaliste. Et Europe est venue évidemment très vite, parce que c'est quand même la station de radio qui nous est rêvée, mythique, qu'on écoutait comme un peu la référence.
Vous avez fait beaucoup de choses sur cette antenne, on va en parler, mais vous avez commencé en faisant quoi?
J'ai commencé en faisant les flashs. C'est Jean Varini qui m'avait engagé comme stagiaire, et je faisais les flashs du début de soirée et de la nuit. Puis après, j'ai présenté le journal de 7h, puis après le journal de 8h, puis après je suis parti à la télé, c'était 69, puis en 74 je suis revenu, et là j'ai commencé à présenter des grosses émissions, comme on dit.
Oui, et puis des grosses, et puis des émissions parfois inattendues. Vous avez un peu tout fait, y compris la cuisine, écoutez.
Avec nous ce soir, donc, Henri Gault et Christian Millot qui publient leur nouveau guide 1975. Moi, je voudrais qu'on en vienne à la nouvelle cuisine, parce que vous nous parlez sans cesse de cette nouvelle cuisine, et effectivement, d'abord, on voudrait savoir exactement ce que c'est.
La nouvelle cuisine, c'est un style, c'est une nouvelle conception de cuisine, bien sûr, qui correspond beaucoup mieux à notre époque. Nous ne pouvons plus manger comme mangeaient nos grands-parents, c'est pas possible. C'est une cuisine plus légère, plus proche de la vérité, plus proche des produits.
Parce que c'est un petit peu inattendu, ça, Étienne. Je veux dire, vous avez aussi fait des interviews des grands.
Goemio, au milieu des années 70, c'était vraiment des gens qui représentaient une vraie révolution dans la cuisine. La nouvelle cuisine, c'est eux. Comme il y avait eu les nouveaux philosophes, pardon de la comparaison, mais tout était nouveau à l'époque. Et c'était un phénomène extraordinaire, Goemio. Et ils ont d'ailleurs très longtemps collaboré à l'antenne d'Europe 1, et donc c'était au-delà de la cuisine, un vrai fait de société.
Ça veut dire qu'ils étaient particulièrement chez eux, dans une station qui était aussi décrite, qu'il a toujours été, comme révolutionnaire.
Oui, parce que c'était une station qui à la fois avait envie d'être toujours à la pointe de l'actualité, mais aussi de comprendre les phénomènes de la société. Et la nouvelle cuisine dans les années 70, c'est très significatif de ce qu'est la société de ce moment-là, qui tourne le dos à bien des choses qui paraissaient pour toujours acquises. Et la cuisine traditionnelle en faisait partie. On jetait ça aussi par-dessus bord et on abordait la nouvelle cuisine. Petit aspect de l'après 68.
Non, alors ça c'était un petit peu un clin d'œil pour commencer cette émission. Europe 1, vous y arrivez, on l'a dit, en 1968. A priori, c'est une bonne année pour l'information.
C'est une année extraordinaire, évidemment, puisque ça va être une année des événements. Vianson-Pontet écrit dans Le Monde au début de l'année 68, la France s'ennuie. Et puis, à partir du mois de mars, avec Cohn-Bendit à Nanterre, ça va être le début d'une histoire incroyable qui va durer à peine 2 mois, qui va être mai 68, et dans laquelle la radio, et notamment Europe 1, vont être un des acteurs très importants, le principal média.
Alors, période effectivement riche en son, en reportage, période où il n'est pas si simple pour le journaliste de terrain de faire son métier. Dans l'ambiance de l'époque, le témoignage de Maurice Siegel.
Nous voulons démontrer notre volonté de lutter contre la République.
L'autre barricade, et maintenant les barricades sont en feu.
Ils ont fait refuser les manifestants dans la rue Saint-Jacques. Nous entrons actuellement de grenader en direction de cette rue Saint-Jacques. Vous entendez peut-être les explosions.
Oui. Voilà donc pour la rue Saint-Antoine. J'appelle maintenant Mazerolles.
C'est une expression que les patrons n'aiment pas.
Même si des accords devaient être signés à Paris, Bannit est responsable. Nous continuerons la grève.
Les réactions des gens en présence. Vous pensez que les forces de l'ordre ont reçu pour consigne d'avancer, de dégager une à une les barricades et pensez-vous...
Le travail que nous avons à assumer n'est pas un travail facile, vous devez l'imaginer. Je voudrais vous dire ceci, c'est que l'objectivité est une chose difficile. Nous savons et nous avons eu toutes les attaques d'Europe numéro 1 et l'objet actuellement de la part des étudiants. Mais il faut bien vous dire que d'autres gens nous critiquent aussi. C'est-à-dire que les critiques des étudiants sont contrebalancées par d'autres critiques qui sont faites par ceux qui ne soutiennent pas les mouvements étudiants. Nous pourrions nous en contenter en disant le fait d'être critiqué par les deux bords fait que nous avons accompli notre travail et que nous avons été parfaitement objectifs. C'est une explication qui ne vous suffirait pas et qui ne me suffit pas à moi-même. Ce que je veux dire, c'est que la radio qui se trouve dans la rue est un appareil qui est difficile à manier parce que c'est un appareil qui travaille en gros plan. C'est-à-dire que les mots d'ordre qui sont tout d'un coup diffusés à travers un micro peuvent être un appel au meurtre et à l'émeute. Et c'est la raison pour laquelle cette information, nous tenons de la manier avec prudence, en sachant très bien ce que nous faisons. Il est difficile pour un reporter qui se trouve dans la rue de donner immédiatement, sur le champ, ce qu'il voit, ce qui se passe, parce que ça peut être un nouvel appel à l'émeute. Et l'émeute, ça peut amener des morts et du sang. Nous avons fait un travail d'informateur dont nous sommes fiers, je vous le dis et le répète. Nous ne prenons pas le micro pour y déverser n'importe quoi. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes des gens sensés, des professionnels, des gens majeurs qui doivent savoir ce qu'ils disent quand ils prennent un instrument aussi difficile à manier que le micro. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuerons de faire.
Belle leçon de professionnalisme.
Oui, je pense que Maurice Siegel, qui était un immense journaliste et qui a été un très grand patron d'Europe 1, a bien résumé la question. Comment être à la fois l'instrument qui rend compte de l'événement sans être pour autant le miroir grossissant qui accélère, qui accentue et qui devient, comme on nous avait dit à l'époque, radio-émeute. Et ce moyen terme, je pense que Maurice Siegel et Jean Grigny ont réussi à le tenir avec une équipe de journalistes qui voulaient toujours plus informer et par ailleurs des passions politiques considérables. Et là, vraiment, oui, gloire soit rendue à Siegel et à Grigny parce qu'ils ont su, me semble-t-il, trouver ce chemin moyen qui notamment a permis à l'Europe 1 de garder sa liberté et son indépendance.
Il y a aussi une expression qui est intéressante dans la bouche de Siegel, c'est la radio qui est dans la rue. Parce que c'est finalement aujourd'hui quelque chose auquel on est habitué, mais à l'époque c'était pas forcément quelque chose d'habituel. La radio était véritablement sur le terrain, rendait compte et en direct.
Non seulement elle rendait compte en direct, mais elle était même par moments le moyen à travers lequel, d'un côté les étudiants et de l'autre les autorités communiquaient. Et donc, témoin ou accélérateur, amplificateur, ça a été tout le débat. Et il y avait une voie moyenne à tenir, et je trouve qu'effectivement, à ce moment-là, quoi qu'en ait dit certains, l'Europe 1 n'a pas été radio-émeute, il y a eu une vraie responsabilité de la part des journalistes et des patrons d'Europe 1, mais en même temps, je pense que le travail a été fait parce qu'effectivement, les reporters étaient dans la rue.
Et c'est vrai qu'Europe 1, Europe numéro 1 à l'époque, a été critiqué à la fois par les cabinets ministériels et par les étudiants. Être critiqué des deux côtés, c'est toujours bon, un bon signe de santé.
Oui, mais comme le disait Maurice Siegel, ça n'est pas suffisant. Il y a un travail permanent à faire pour être sûr qu'on est bien là pour refléter la réalité de ce qui se passe et qu'on n'est pas manipulé, utilisé. C'est toute la subtilité d'ailleurs du métier de journaliste qui demeure aujourd'hui avec la radio, la télé et même la presse écrite. Et demain Internet. C'est un autre sujet.
On en parlera peut-être si on a le temps. Vous restez que seulement quelques mois à Europe 1. Vous partez faire de la télé à l'ORTF. Pourquoi?
Parce qu'il y a une nouvelle équipe qui s'installe avec à la tête Pierre Desgros, et que ça va être une aventure formidable, que, évidemment, j'adore la radio, mais j'aimerais bien faire de la télé. Il y a, pour moi, la possibilité de me joindre à cette nouvelle équipe, d'être engagé comme le petit dernier, et pendant 3 ans, avec Desgros et cette équipe, je vais présenter le journal, faire des magazines, et donc apprendre la télévision.
Mais vous allez revenir en août 73, la station vous manquait peut-être déjà un petit peu. Quelques mois après votre retour, le décès de Georges Pompidou, l'accession à l'Élysée de Valéry Giscard d'Estaing, elle est ainsi commentée dans l'un des journaux d'Europe par la mère puis par le père du nouveau président.
Ça me rappelle la libération de Paris où j'étais aux Champs-Élysées avec lui qui avait son brassard et nous assistions à cette entrée dans Paris après avoir vécu toutes les années d'occupation là.
Et aujourd'hui, alors ?
Aujourd'hui, le voir remonter les Champs-Élysées. Après ça, il a remonté les Champs-Élysées sur son char le 14 juillet de la paix, en 1945. Et aujourd'hui, comme président de la République, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et magnifique, parce que les gens étaient tous si gentils autour de lui.
Est-ce que vous avez l'intention de le surveiller un peu, de lui donner des conseils, parfois ?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand on élève ses enfants, alors oui, on s'en occupe. Mais une fois qu'ils ont élevé, qu'ils sont partis dans la vie, les parents sont là. S'il a envie de venir, il vient. Il est toujours accueilli à bras ouverts, mais nous ne demandons rien.
Pour nous, c'est un achèvement au point de vue familial parce que nous avons vu la montée intellectuelle, morale, spirituelle, familiale de notre fils. C'est très beau. Il est dans la plénitude de ses moyens et dans la perfection de son âge.
Est-ce que vous pensiez qu'il atteindrait un jour ce niveau quand il était petit, quand c'était votre fils, quand c'était votre enfant?
À vrai dire, ce qui m'a préoccupé, ce n'était pas tellement de savoir ce qu'il ferait, s'il serait président de la République ou premier ministre ou général en chef. C'était de savoir, c'est une chose qui m'est très sensible, si étant donné les dons incontestables qu'il a et la destinée qui se préparait, s'il serait toujours... Et c'est ce que je pense pour tous les hommes. S'il serait à la hauteur de son destin.
Là, vous étiez là, oui, jeu de mots possible d'ailleurs, de la part du père de Valéry Giscard d'Estaing. Vous étiez là pour mai 68, vous êtes là pour le tournant politique que représente tout de même l'accession de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée, où vous êtes à Europe 1 pour les grands moments. Ça s'est fait comment?
C'est le hasard. C'est que c'est vrai qu'ayant quitté la télé au moment où on a sacrifié l'équipe des groupes, parce qu'il fallait reprendre en main l'ORTF, je me suis retrouvé libre, j'ai fait un détour par RTL et je suis revenu dans la maison qui était ma maison, qui était Europe 1. Et je suis revenu avec Gildas, Et on a fait un paquet cadeau à Gorini. On lui a dit, ou on vient tous les deux, mais aucun des deux viendra tout seul. Et à mon avis, à l'époque, Gorini avait plus envie de Gildas que de moi. Et donc, je suis... Bon, en tout cas, il nous a pris tous les deux. Et voilà, Giscard est arrivé, si j'ose dire, nous l'y pouvions, mais c'était pas nous, évidemment, qui étions maîtres de ce qui s'est passé, de la mort de Georges Pompidou, et de cette campagne formidable qui a été la campagne Giscard-Mitterrand de 74. Je rappelle que Giscard a gagné 300 000 voix, donc une bataille féroce.
Vous avez toujours été passionné par la bataille politique.
Oui, parce que, bien sûr, la politique, c'est un des scènes de l'information. Parce que aussi une élection présidentielle, c'est toujours un moment assez extraordinaire, extrêmement fort. J'ai vécu 74 et 81 à Europe 1. Après, j'ai vécu 88, 95 et 2002 à TF1. J'avais vécu 65 à France Inter. Et j'avais vécu 69 à Europe 1. Vous voyez, je les ai toutes faites. Et là-dessus, j'en ai fait quand même 4 à Europe 1.
Et alors, c'est mieux à la radio ?
C'est autre chose. Je pense que la radio, elle a une incroyable spontanéité, capacité à rentrer dans non seulement la demeure de chacun, mais le cœur de chacun. La télé, il y a un effet de masse qu'il n'y a pas à la radio. Et à mon avis, une campagne électorale, pour un responsable politique qui a envie de gagner, il faut intégrer... Et la télé, bien sûr, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, mais aussi la radio. La radio, c'est aussi beaucoup le matin. On regarde moins la télé le matin, on écoute plus la radio. Donc, radio-télé, télé-radio, à mon avis, les deux sont aujourd'hui importants pour une campagne électorale.
Marc Tronceau.
Les enfants d'Europe 1 réunis autour d'Étienne Moujotte, un des grands patrons de l'information de la station, il y a quelques années. On a entendu Étienne Moujotte, Maurice Siegel tout à l'heure, on a évoqué le personnage, mais Siegel, c'est un nom qui, dans l'histoire de la radio, dans l'histoire d'Europe 1, est également associé au souvenir d'une crise très grave qui va marquer l'antenne et qui va marquer le monde du journalisme, qui va se terminer par le départ, pour ne pas parler du limogeage de Maurice Siegel. Et j'imagine que c'est un souvenir qui est toujours très présent, Étienne.
Oui, c'est pas une des pages les plus glorieuses de l'histoire de la presse en France. Il faut bien se souvenir qu'à l'époque, Europe numéro 1 était certes une station théoriquement privée, mais dont la majorité du capital appartenait à l'État via une société, la Sofirad, et qu'à ce titre-là, en dernier ressort, l'État, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République, avait pouvoir de vie et de mort. Et l'épisode de 74, il est très douloureux parce que c'est vrai que, parce que Maurice Siegel avait déplu pendant la, et ses journalistes avaient déplu pendant la campagne de 74, et notamment parce que on avait le sentiment que il y avait eu, disons, un petit coup de cœur en faveur de Chaban, la décision a été prise au sommet de l'État, chez Valéry Giscard d'Estaing, de changer les responsables d'Europe 1. Et la Sofirad a fait jouer son pouvoir, et on a dégagé les chefs historiques, Siegel et Gorini.
Mais c'est Jacques Chirac à qui Europe 1 avait déplu, non ?
En l'occurrence, moi j'ai du mal à partager les choses, on va dire, c'est le pouvoir, le président était Valéry Giscard d'Estaing, le Premier ministre était Jacques Chirac. Après, chacun y retrouvera les siens. Donc, on a liquidé Siegel et Gorini, et il a fallu une équipe de journalistes derrière reprennent le flambeau. Et c'est là qu'est intervenu un homme qui a pour moi une importance essentielle dans l'histoire d'Europe 1, c'est Jean-Luc Lagardère. Jean-Luc Lagardère, qui avait la confiance de l'actionnaire d'Europe 1 privé, M. Farah, a pris les rênes et pendant 8 ans, eh bien, il a permis à la fois une équipe de journalistes et une équipe de programme de continuer à travailler de manière indépendante malgré cette menace que faisait planer cette Sofirad détenue par l'État.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit sur l'antenne au lendemain de cette crise ?
Non, je ne m'en souviens pas.
Vous voulez l'entendre ?
Volontiers, oui.
On y va.
Nous venons d'être très malades. Oui, Europe 1 vient d'être très malade. Et parce que vous tous qui nous écoutez, nous avons l'habitude de ne rien vous cacher, nous vous l'avons dit en essayant du mieux que nous pouvions de vous expliquer la crise très grave qui vient de secouer notre maison. Les conditions du limogeage de Maurice Siegel étaient pour nous inadmissibles, tout comme nous ne pouvions admettre les propos publics tenus sur le ton de la station qui mettaient directement en cause notre travail et notre honneur. Il fallait réagir, obtenir réparation et surtout garantie pour l'avenir. Nous l'avons fait, tous ensemble, inébranlablement unis, du début à la fin d'un conflit que nous n'avions ni souhaité ni déclenché. La totalité du personnel d'Europe 1, artistique, technique, administratif, journaliste, la totalité du personnel a immédiatement défini très clairement les conditions dans lesquelles une solution à la crise devait être trouvée pour qu'Europe continue à vous informer et à vous distraire en toute liberté et en toute indépendance. Il était ensuite indispensable, eu égard au coup formidable qu'on avait tenté de nous porter, que des garanties précises, écrites et signées, nous protègent désormais contre les tentations des pouvoirs d'étouffer notre voix ou d'affaiblir notre ton. L'unité totale et admirable du personnel d'Europe, l'appui précieux et efficace de l'ensemble de la presse écrite, toutes opinions confondues, l'exigence secrète mais résolue de chacun d'entre vous qui nous écoutez parce que vous nous croyez, ont permis hier après-midi d'aboutir à un accord. C'est un bon accord que nous avons unanimement accepté parce qu'il répond pour l'essentiel aux conditions que nous avions posées. Il prévoit notamment que sera signé avant le 31 mars 1975 un texte garantissant la liberté de l'information, l'indépendance des journalistes et en général de tout le personnel de l'entreprise à l'égard des pouvoirs et des groupes de pression, comme cela a toujours été la règle à Europe 1. Nous avons confiance dans les signatures placées au bas de cet accord, celles de Sylvain Floira et celles de Jean-Luc Lagardère, sous la responsabilité desquelles est désormais assurée la direction de la maison. Notre unité et notre détermination sont suffisantes pour empêcher quiconque de porter le moindre coup de canif à cet accord. Quelques-uns des meilleurs d'entre nous sont partis, n'écoutant que la voix de leur conscience et leur fidélité personnelle à Maurice Siegel. Ils ont droit, aujourd'hui, à notre respect et à notre affection. Mais les autres, tous les autres, les plus nombreux, ont décidé pour l'instant de rester. Et ils se battront tous ensemble pour qu'Europe continue comme avant, exactement comme avant. Nous entendons rester libres et indépendants. Si le malheur voulait qu'un jour nous ne puissions plus l'être, nous vous le dirions. Et c'est parce que nous savons que vous ne l'accepteriez pas que nous avons confiance dans l'avenir d'Europe 1. Merci à chacun d'entre vous de nous aider à continuer.
Ça fait quel effet, Étienne Moujotte, de réentendre ce texte qui, pour nous, est un document?
C'est assez émouvant parce que c'est vrai qu'à la fois, je croyais profondément ce que j'ai dit, et en même temps, je savais qu'il y avait des risques. Nous savions qu'il y avait des risques que cet engagement pris par Sylvain Floira et Jean-Luc Lagardère ne soit pas tenu, non pas qu'ils ne l'auraient pas tenu eux, mais parce que le pouvoir politique aurait pu vouloir une nouvelle fois faire jouer sa majorité. Et avec le recul, bon, bien sûr, je pense que nous avions raison de prendre cette position, et je pense que nous pouvons avoir un souvenir ému pour Sylvain Floira et Jean-Luc Lagardère de nous avoir permis de faire repartir Europe et de faire en sorte qu'Europe soit aujourd'hui encore, près de 30 ans après, ce qu'il était en 1956, au moment de sa création, une station libre et indépendante.
Est-ce que, suivant l'expression consacrée, après cette crise, Europe ne sera plus comme avant? Est-ce qu'il y a un avant Siegel et après?
Oui, on a bâti une autre histoire. Mais en même temps, Europe s'inscrit dans cette histoire de liberté, d'indépendance, de volonté absolue des journalistes de ne pas être à la merci et à la botte de telle ou telle, de telle ou telle chapelle, de telle ou telle partie. Donc ça, c'est quand même le terreau d'Europe 1. Ça a commencé il y a plus de 50 ans, ça a été réaffirmé en 1974, et je suis sûr que c'est encore plus vrai aujourd'hui que la Sauvegarde n'est plus là, car Europe 1 est totalement privé.
Europe qui va effectivement continuer sans Siegel, avec une équipe composée de beaucoup d'hommes et de quelques femmes qui ont d'ailleurs pour la plupart fait de la télé par la suite. On va réentendre quelques-unes de ces voix, en commençant par celle d'un autre grand monsieur, un quasi-commandeur, un de ces pionniers de la télé, qui en 75, chaque lundi sur Europe 1, recevait un invité. L'invité ce jour-là, c'est maître Paul Lombard, ténor du barreau, et l'intervieweur, c'est Pierre Desgroupes.
Le rendez-vous de Pierre Desgroupes, un rendez-vous Europe 1 avec l'hebdomadaire Le Point.
À notre rendez-vous de ce soir, un avocat, un juriste, maître Paul Lombard. Pourquoi ai-je demandé à Paul Lombard de venir ce soir? Eh bien parce que la semaine dernière, à la suite d'événements dont vous vous souvenez, une grève du cœur pratiquée par le professeur Guillemet, une nouvelle fois, le problème des greffes, des dons d'organes, pour employer l'expression exacte, a été évoqué. Et a été surtout évoquée l'énorme difficulté que rencontre la médecine d'aujourd'hui dans un pays comme la France pour trouver des donneurs d'organes. Or, vous le savez, le don d'organes, la greffe, la transplantation font partie des techniques de pointe admises maintenant dans tous les pays. Et c'est probablement l'une des façons, dans le présent...
La voix de Pierre Desgroupes. Je disais pionnier, je pourrais dire aussi l'un des représentants d'une génération qui a compris et très vite l'importance stratégique de l'audiovisuel. On disait pas audiovisuel, mais c'était la radio et la télé. Vous en êtes aussi un exemple. Je veux dire, passés de l'un à l'autre et qui pouvaient le faire avec le même talent.
Desgroupes est un très très grand journaliste. Il a été un patron formidable de dépendance, de liberté, de ton, d'esprit. Mais c'était une voix. Vous avez entendu sa voix. C'est en radio, la voix, c'est quand même très important. Et c'était, dans tous les sens du terme, une grande voix. Et là, il parle de médecine parce que ça a été un des nombreux sujets sur lesquels il a travaillé. Mais c'était un homme qui était pris de littérature, qui lui-même a écrit, il connaissait la politique sur le bout des doigts. C'est un vrai journaliste, quoi, tout simplement.
Dumayet, Desgroupes, Barrère, Sabag, c'est vos pères dans ce métier.
Oui, les pères et les pères PAIRS, parce que ils avaient à peu près tout inventé en matière de télévision et même aussi un peu de radio. Donc c'est vrai, moi c'est les gens qui m'ont formé et pour qui je garde une grande vénération parce que c'était non seulement des grands professionnels, mais des hommes très indépendants.
Vous allez vous entourer, Étienne Moujotte, à Europe, de beaucoup de talents. Certains sont déjà là quand vous arrivez, d'autres vont venir, comme une certaine Catherine Ney.
Moi, je suis arrivée, Étienne était déjà installé, et c'est lui qui m'a engagée. Donc, pour moi, c'était un grand souvenir. Alors que j'avais plutôt peur, j'avais aucune habitude de la radio, il m'a tout de suite rassurée. Mais surtout, ce qui était extraordinaire, c'est que j'étais engagée au service politique, et que c'est un fou de politique. Il adore ça. Donc, dès qu'on allait, on se déplaçait sur un congrès, ou bien on allait à l'Assemblée nationale, et on en revenait avec des informations, quelques petites phrases, quelque chose vu, d'abord, ça l'intéressait, ça l'amusait, ça le faisait rire. Et quand il y avait plus de deux ou trois choses, ils disaient, ah, mais tiens, on pourrait lier ces trois sujets, ces trois anecdotes, et tu pourrais en faire un papier. C'est-à-dire que il nous apprenait à digérer nos propres informations pour essayer d'en tirer une idée générale. Hein. Et c'était ça qui était formidable, et en ce sens, il était un vrai pédagogue de la politique. D'abord, il avait une grande culture politique, on sentait qu'il avait beaucoup lu, qu'il s'était intéressé, qu'il connaissait aussi le personnel politique, et en plus, il était un chef d'équipe. Hein. Moi, je dirais que c'est un... Et il l'est toujours, hein, c'est un chef d'orchestre. Moi, je dirais qu'il est plus un chef d'orchestre qu'un soliste. Hein.
Il réunissait des notes et il en faisait une partition, il la proposait à
l'orchestre. Non, mais il connaissait la partition, mais il savait tirer de chaque instrument le meilleur de lui-même. Voilà, il savait qu'un tel était capable de faire tel papier, et c'était quelque chose de très vivant, et il laissait éclore beaucoup de personnalités. C'est quelqu'un qui laissait éclore... Moi, par exemple, quelquefois, j'avais tendance à persifler. Eh bien, jamais, il m'a dit quelquefois, n'y va pas trop fort, mais au contraire, il voulait que les voix se distinguent, et que ça soit un ensemble, c'était quand même une philharmonie, donc il y avait le mot harmonie, mais il voulait qu'il y ait aussi quelques couacs pour que ça soit vivant. Et il y avait beaucoup de personnalités très fortes à l'époque.
T'as souvenir d'avoir imaginé à cette époque-là, en le voyant travailler, la carrière qu'il allait faire après?
Écoute, non, mais je savais que c'était un chef, voilà, c'est un patron.
Bon, il y a beaucoup de compliments, il y a beaucoup de fleurs là-dedans.
Ça, c'est on fait un peu le tri. Produit de l'amitié que Catherine me porte et que je lui rends bien.
On fait le tri. Qu'est-ce qui est le plus important? Et puis, bon, qu'est-ce qui est à relativiser? Vous êtes vraiment
un homme d'équipe. J'aime bien l'idée de chef d'orchestre parce que c'est vrai que l'Europe 1 de cette époque, c'était Catherine, mais c'était Gildas, c'était Levaille, c'était Boissonnat, c'était Alain Duhamel, c'était Carreau, c'était Villeneuve, c'était toute une série de gens incroyablement différents et qui effectivement avaient parfois tendance à jouer chacun sa partition. Hein, il faut pas non plus idéaliser cette époque. Il y a des moments où le chef d'orchestre il avait un peu de mal à mettre tout ça en harmonie, mais il y avait quand même de grands journalistes, de vrais et grands journalistes, et des personnalités fortes. Et c'est vrai que ce que je garde de cette époque, c'est l'idée que je travaillais avec un orchestre incroyable, quoi. Les noms que j'ai cités, on pourrait ajouter Bouchard et combien d'autres. Et je parle pas des grands porteurs de l'époque, les Fronti, les Ponchelet, les Schneider. C'était incroyable quand on voit ce que chacun d'entre eux chacune d'entre elles est devenue. Et tout ça, effectivement, arrivait à jouer à peu près la même partition. Bon, j'y arrivais tant bien que mal. Et c'était le plaisir que de mettre tous ces gens ensemble et d'essayer qu'il n'y ait pas trop de fausses notes.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont fait effectivement de la télé après. Alors, j'ai pas la prétention de tous les avoir réunis, mais dans ce qui va suivre, comme dirait Brialy, beaucoup de vos amis sont là.
En direct avec vous de 7h30 jusqu'à 8h30 comme promis. Et là, comme vous, comme nous, le président Mitterrand va entendre Gérard Carrérou.
Monsieur Mitterrand, il y a 3 semaines, vous avez dit il n'y a pas de politique de rechange. Mais pourtant, il y a des politiques de rechange. Il y a celle de Monsieur Chirac, il y a celle de Monsieur Barre, et puis il y en a peut-être d'autres à gauche.
Oui, j'aurais peut-être dû distinguer quand j'ai prononcé cette phrase. Il y a en effet des politiques différentes selon que l'on soit...
La cruauté, la précision et la rapidité du coup de Vienne sont dans la façon de ce Carlos qui, à Paris, le 27 juin dernier, a tué 3 fois, en moins d'une minute, 2 policiers du contre-espionnage français et son chef de réseau.
Pour le premier reportage, donc, en direct sur l'arrivée d'Éric Tabarly, puisque vous savez que le navigateur breton a causé une énorme surprise en arrivant il y a quelques 10 minutes, un quart d'heure maintenant, en rade de Newport. C'est donc Tabarly le vainqueur. Alors, premier reportage, donc, en direct sur cette arrivée. J'appelle l'envoyé spécial d'Europe 1 à Newport, François Ponchelet. François.
Eh bien, effectivement, Jean-Claude Dacier, c'est la surprise, la fantastique.
Il va y avoir du tangage, il faudra s'accrocher au bastingage, m'avait dit un proche de M. Chirac à propos de la visite du Premier ministre en Martinique. Jacques Chirac a foulé le sol martiniquais et pour autant la terre n'a pas tremblé.
On les a tous reconnus, vous les aviez cités juste
oui,
avant.
Oui, non, il y en a deux que j'avais pas cités, et Dieu sait qu'ils ont une place importante. C'est les deux derniers qu'on a entendus. C'est Robert Lamias, reporter politique à l'époque, fou de politique, et c'est Dacier.
Donc nous sommes très honorés d'avoir le fils aujourd'hui au service politique. Absolument, comme Fabien. Quoi, il y a aussi de grandes lignées.
Fabien, et le père, c'est Robert.
Ouais.
Et l'autre, c'est Jean-Claude Dacier, parce que c'est vrai que Dacier était d'un enthousiasme extraordinaire par rapport à l'info. Et avant, on avait entendu Villeneuve, on avait entendu Carrérou.
Villeneuve sur le terrorisme, Carrérou sur la politique.
Et un personnage extraordinaire qui avait le matin 2 choses, sa revue de presse et son fameux « Expliquez-vous ». Pour la première fois, un homme politique acceptait de répondre à des questions en 8 minutes.
3 questions, 3 réponses. Hein,
et quand on a lancé avec Yvan « Expliquez-vous », on s'est dit « Les hommes politiques ne viendront jamais parce qu'ils ont la possibilité de faire 25 minutes le soir, ils feront jamais 8 minutes le matin ». Et Yvan Levaille a imposé le rendez-vous du matin à la radio. C'était 1974, et ça a fait Florès.
Comment ça se fait que c'est quasiment une partie de l'état-major de TF1 qui soit là?
Ah, parce que je crois que c'était des gens de qualité, puis que moi, effectivement, comme on a dit souvent, moi je chasse en meute. Il y a ceux qui ont toujours été avec moi, j'aime bien qu'ils y restent, et d'autres, on va voguer de leurs propres ailes. Mais c'est vrai que pour moi, le groupe, pour moi, l'équipe, pour moi, les mauvaises langues disent le clan, non, simplement, ceux qui ont appris à travailler ensemble, quelquefois à souffrir ensemble, et qui, au-delà des petites bagarres personnelles, finalement, ont beaucoup d'affection les uns pour les autres.
C'est plus une fratrie.
Un peu, on peut le dire comme ça.
On se retourne dans quelques instants avec Étienne Moujotte.
Marc Trousseau.
Retour dans le studio des Enfants d'Europe 1 avec, pour inviter aujourd'hui, Étienne Moujotte, ancien patron de l'information de cette antenne et aujourd'hui vice-président de TF1, on ne le présente pas. On était en train d'évoquer ces années, toutes ces voix, tous ces talents. Il y a aussi pas très loin une jolie petite brune, assistante de Gorini, avait également travaillé à vos côtés avant de faire ses premiers pas à l'antenne, avec un certain brio d'ailleurs. Écoutez, nous sommes en 76. L'émission a été baptisée « Tout peut arriver ». Elle est animée par Jean-Michel Desjeune, Pierre Lescure et Anne Sinclair. Ce jour-là, c'est Jean-Jacques Servan-Schreiber qui est l'invité.
Jean-Jacques Servan-Schreiber est aux mains d'Anne Sinclair. C'est l'heure du confessionnal.
Beaucoup d'articles qui vous sont consacrés insistent non pas toujours sur votre côté déraisonnable, dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi sur votre côté sérieux. Et pas seulement sérieux dans les actions que vous menez, mais aussi dans l'image que vous donnez de vous-même, souvent grave, riant peu, manquant un peu, on dit aussi, du sens de l'humour. Alors on se demande si vous vous amusez quelquefois, et de quoi, ou de qui, ou avec qui. Vous savez rire ?
Bah écoutez, là, ça fait 2 heures qu'on fait que ça, alors, ou à peu près. De qui ? Non.
De quoi ? Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie ?
Je sais pas. C'est pas une question qui me passionne. J'ai le droit de ne pas répondre.
Vous avez le droit, ouais. Oui, absolument.
Je ne sais pas. Ça ne me vient pas à l'esprit, je ne sais pas.
J'ai lu quelque part que vous aviez loué, jeune homme, une maison avec Jacques Duhamel et Valérie Giscard d'Estaing du côté de Saint-Germain.
Oui, bah, c'était pas tellement drôle.
Non. C'était des camarades avec lesquels vous ne vous amusiez pas.
On était beaucoup trop sérieux, tous. Mais alors vraiment, et moi j'étais le moins sérieux des trois.
On dit aussi de vous que vous êtes planifié, voire programmé, presque en fonction d'un but à atteindre, que tout ce qui est un peu accessoire à votre carrière, vous êtes un peu indifférent, je pense, par exemple, à la poésie, à la musique, à l'art en général. C'est vrai, ça ?
J'ai tout à fait renoncé à avoir une carrière, donc il y a quelque chose de faux à la base dans ce que vous dites.
Et je n'ai pas renoncé à avoir une carrière. C'est pas l'image qu'on en a.
Je n'ai pas renoncé à une carrière parce que je crois que je serais incapable d'avoir une carrière, mais parce que je crois que l'époque que nous vivons, et encore plus celle que nous allons vivre, ne se compose pas avec des carrières. Il faut constamment être capable de changer de pied, de changer d'activité, de s'adapter à des choses nouvelles. Et on ne peut plus tracer ce qu'on appelle dans l'industrie comme dans l'administration des plans de carrière. Ça ne veut rien dire. Quand quelqu'un vient me trouver pour me demander un plan de carrière, moi je lui dis, je ne peux pas vous répondre. Nous vivons une période révolutionnaire au sens fondamental, et d'ailleurs passionnante, qui peut devenir dramatique, mais qui est d'abord passionnante. Et il n'y a pas de carrière.
Alors,
donc moi j'ai quelques idées auxquelles je crois, quelques convictions que je veux faire réussir pour elle-même, et je m'y emploie.
J'ai lu quelque part cette phrase de vous, je crois, le journaliste, c'est l'exigence de modestie. Vous le pensez toujours, et vous pensez que c'est vraiment une qualité essentielle au journaliste. Je vous pose ça parce que finalement, on ne cite jamais généralement la modestie comme une de vos plus grandes qualités.
Mais alors j'allais vous dire, il y a 3 choses fausses là-dedans. Premièrement, la phrase n'est pas de moi.
Vous la ratifieriez pas ?
Deuxièmement, je ne suis pas modeste. Et troisièmement, je suis beaucoup moins journaliste qu'avant. Alors, c'est pas un sujet qui me passionne en ce moment.
Vous êtes moins journaliste qu'avant ? On va quand même parler de l'Express un
beaucoup
petit peu.
Beaucoup moins journaliste qu'avant, évidemment, forcément. On peut pas être à la fois un homme politique actif et un journaliste plein temps.
Le trio LSD, comme le stupéfiant du même nom ou des mêmes lettres, Lescure, Sinclair, des jeunes, Anne Sinclair, ça déménage.
Ah ben c'est formidable. Elle doit avoir quelques mois de radio, là. Et vous avez vu, d'abord, la qualité de la voix, mais la capacité à tenir le coup face à Jean-Jacques Savant-Chabert, qui est un monstre du journalisme, qui est un... Et elle déroule ses questions sans se laisser intimider le moins du monde. Elle m'avait dit quelques mois avant, elle était mon assistante, je voudrais faire du micro. Et je lui ai dit, il faut essayer. Et je n'imaginais pas, même si j'avais quand même, senti que le talent était là, tout près d'éclore, je n'imaginais pas qu'elle allait en si peu de temps s'imposer déjà à la radio et ensuite à la télé. Et c'est quand même la preuve que... Au-delà de, il y a ça chez Anne Sinclair, l'intelligence, la culture, et notamment la culture politique, mais le talent, tout simplement le talent, c'est la preuve que le talent, en radio, et aussi même en télé, mais surtout en radio, peut vraiment éclore en quelques semaines. Et là, c'est une manifestation formidable. Quand on sait la carrière qu'a fait Anne, on en est moins étonné quand on voit ce qu'elle faisait après quelques mois d'expérience à la radio.
Toujours promouvoir le talent quand on l'a autour de soi. C'est une règle pour un patron.
C'est de la chance, vous savez, c'est de la chance d'avoir eu Anne Sinclair qui travaillait avec vous.
Mais c'est quoi ?
C'est elle qui a fait sa carrière, c'est pas moi. Hein.
C'est une génération particulièrement brillante ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tous ces gens qu'on entend là aient fait une telle carrière ? Comment c'est
passé ? Non, c'est aussi qu'Europe 1 était une sorte de pouponnière, dans le bon sens du terme.
Le vivier, le creuset ?
C'était un vrai vivier. Et puis, bon, il y a eu une période bénie, cette période de la fin des années 70, début des années 80, où nous nous sommes retrouvés ensemble, avec quelques-uns ou quelques-unes, qui ensuite ont fait la carrière qu'on sait. Je voudrais dire un mot quand même supplémentaire sur mon équipe. Il y avait un garçon qui jouait un rôle formidable. On l'a jamais entendu à l'antenne. Il s'appelait Bruno Dalle. Il s'appelle Bruno Dalle. Oui. Il a été
secrétaire général de cette antenne.
Il était en fait mon bras droit. Et c'est lui qui faisait tourner la boutique. Et là, Bruno, merci encore. Je pense qu'on ne te remerciera jamais assez.
Toujours patron, toujours organisateur. Jamais de regrets sur davantage de reportages. Vous avez commencé quand même dans cette carrière regrets, par une correspondance à Beyrouth.
Oui, regret pour moi de ne pas avoir fait de reportage, peut-être d'avoir été propulsé trop tôt. Moi, j'avais 34 ans quand Jean-Luc Lagardère m'a confié la direction de la rédaction d'Europe. C'était vraiment très jeune. Et puis, un regret, alors, sur la manière dont j'appréhendais les choses à l'époque. Je pense, même si Catherine Ney a gentiment dit que c'est moi qui l'ai engagé, je n'avais pas bien compris ce qu'était le rôle, que devait être le rôle des femmes. Nous étions encore machistes. On a commencé avec Catherine, avec Françoise Kramer, avec quelques autres, à mettre à l'antenne quelques femmes.
Joël Jonathan.
Christiane Collange est venue. Mais c'est vrai que nous étions machistes. Nous étions en retard. Et il a fallu que nous fassions notre évolution, parce qu'aujourd'hui, une rédaction dans laquelle il n'y a pas la parité entre hommes et femmes, ça ne peut pas être une bonne rédaction.
Il faut avouer, être à moitié pardonné. Étienne Moujotte, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais il y a effectivement, forcément, un homme dont on a envie de vous entendre parler. Plus encore, c'est de ce Gascon dont le nom se confond avec l'histoire d'Europe 1, Jean-Luc Lagardère. J'ai eu envie de réentendre sa voix, comme s'il s'agissait d'un retour aux fondamentaux. Nous sommes en 86... Achète, rachète, Europe 1, dont Jean-Luc Lagardère avait dû se séparer en 1981.
Achète ne vient pas à Europe 1 pour engranger des dividendes, mais pour développer la maison, en affirmant encore son image de leader. Bien entendu, je ne vous cacherai pas que j'ai un grand faible pour cette maison. J'ai tout de même contribué à un certain moment à la positionner au niveau où elle est aujourd'hui, mais on peut faire encore mieux. Et les choses évoluant, on peut faire plus moderne, être une nouvelle fois les leaders de ce qui peut être une révolution de la radio, qui n'est plus une télévision sans images, mais qui est une source permanente de communication avec les gens, où qu'ils soient. Les informations, les divertissements, beaucoup les informations à mon avis. On peut donc le développer.
Quelle relation exacte entretenait, vous qui l'avez bien connu, l'industriel Jean-Luc Lagardère, l'homme de médias avec Europe 1?
Quand il arrivait à Europe 1 pour faire sa deuxième journée, parce qu'il avait fait sa première journée à Matra, il arrivait vers 17h, c'est vrai que ça n'était pas le même Jean-Luc Lagardère que celui qui était patron de Matra. Il changeait de peau et il devenait le responsable d'une équipe de journalistes, de programmateurs, d'hommes de programme. Et je retiens, moi, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion, parce que il m'a appris tellement de choses et j'ai eu tellement d'affection pour lui. Il m'a, une affection, j'ai envie de dire, presque filiale sur le plan professionnel. Il m'a appris d'abord l'ambition. Toujours l'ambition. Toujours être le meilleur. Toujours faire plus pour être devant. Il m'a appris l'esprit d'équipe, parce que c'était vraiment un chef d'équipe. Et c'était vraiment, bien sûr, qu'il était un soliste extraordinaire et qu'il était devant, mais toujours avec la volonté de tirer l'équipe. Et la troisième chose, c'est le pragmatisme. C'est là où c'était un grand patron, un grand industriel. Quand il était face à un problème, il disait toujours qu'il fallait qu'on trouve la solution. Et d'ailleurs, avec une certaine modestie, par moments, il voulait la meilleure, quelquefois c'était la moins mauvaise solution. Mais il fallait trouver des solutions.
En 81, c'est le même Lagardère qui va vous confier l'aventure du journal du dimanche. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui vous ont taxé d'être un journaliste giscardien et d'avoir fait de l'antenne d'Europe 1 une antenne giscardienne?
Alors, d'abord, ma réponse là-dessus, elle vient de celles et ceux qui ont travaillé avec moi. Je ne crois pas que Boissonnat, Duhamel, Catherine Ney, Carré-Roux et combien d'autres, Levaille, Dacier, étaient giscardiens. Donc je crois que la réponse, elle est là. L'autre réponse, c'est que moi, j'ai été foutu à la porte de la télévision par Pompidou et foutu à la porte d'Europe 1 par Mitterrand. Un partout, là-bas au centre, ça m'a donné du recul Et j'avoue que maintenant, je vois ça avec une certaine distance.
À la fin des années 70, il y a un humoriste qui va faire l'événement sur Europe 1, c'est Coluche, alias Michel Colucci, candidat fugitif à l'élection présidentielle. J'avais envie d'écouter cet extrait, c'est au lendemain de son retrait de la compétition présidentielle.
C'est quand même une rigolade. Georges Marchais a quand même annoncé que s'il était élu, ce qui est déjà une plaisanterie, il trouverait 3 500 000 emplois nouveaux. Alors que comme il n'y a que 2 millions de chômeurs, il va falloir faire rentrer 1 500 000 arabes, qu'il aura du boulot à virer avec son bulldozer après. Donc il y a quand même une mascarade énorme. Il y a même un ministre qui a dit que Giscard avait un plan audacieux pour le chômage. Audacieux, il a un plan. Pas un plan ordinaire, audacieux. Donc ça va chier, hein. Le chômage, il a intérêt à bien se tenir. Hein. Les chômeurs, hein, il faut qu'ils se préparent, ils vont trouver du boulot demain, les mecs. Hein. Moi, je suis là pour faire marrer. Il se trouve que je fais peur, surtout, aux hommes politiques. J'en suis ravi, parce que, évidemment, se met la merde, ça m'ennuie jamais. Et puis, je crois que c'est utile. Enfin, je sais pas, il y a une fonction, quoi, si vous voulez, dans l'État, qui est celui qui est contre l'État. On a élu un mec président de la République qui avait déjà été 7 ans ministre des Finances. Si les Belges avaient fait ça, on serait foutus de leur gueule pendant des années. Alors, moi, j'en ai marre de passer pour un con. J'espère qu'on va pas le réélire, quoi, c'est tout. En plus, un mec qui a eu le pouvoir pendant 7 ans, c'est celui qui est le plus à même de savoir comment s'en servir pour le magouiller et le matraquer avec la police et machin, il a tout en main. Donc si un nouveau arrive, à mon avis, il va être plus sympa. Déjà, il va être content d'arriver, déjà, ça va y faire une surprise. Le temps qu'il s'en remette, ça va nous faire plaisir. Et puis le temps qu'il apprenne à servir des rouages et à nous faire chier comme les autres, il peut se passer un moment et ça peut être bon, c'est tout. L'essence a augmenté 2 fois le mois dernier en France. Une fois de 14 centimes, une fois de 15 centimes, elle a baissé 2 fois en Belgique. Alors bon, les Belges, c'est des cons, oui, d'accord. Est-ce qu'on doit préférer de payer l'essence un peu plus cher puis être moins con que les Belges? Je suis pas sûr, quoi, hein. Moi, je demande l'asile politique à la Belgique s'il est réélu Giscard d'Estaing.
Bon, il l'a pas été. On imagine qu'il vous est arrivé de le croiser, Coluche, ça donnait quoi?
Oui, c'était une idée du directeur des programmes d'Europe 1, qui était le directeur des programmes, René Kletman, de faire venir Coluche. Et au départ, moi, je vous avoue que la communauté des journalistes n'était pas très favorable parce qu'il empiétait sur notre terrain. Il faisait des commentaires politiques et journalistiques tous les jours. Et en même temps, c'est vrai qu'il a apporté une fraîcheur extraordinaire à l'antenne d'Europe. Oui, je le croisais, mais ce n'est qu'après que je l'ai mieux connu. À ce moment-là, on se regardait un peu en chien de faïence, parce qu'encore une fois, il faisait notre travail.
J'ai envie de demander à l'homme de multimédia que vous êtes, pas seulement l'homme de télé, ni l'ancien homme de radio, mais comment est-ce que vous imaginez l'évolution de la radio dans les 10 ans qui viennent?
Alors, je pense qu'il y aura toujours les deux grandes branches. On appelle ça les radios généralistes, c'est-à-dire les radios qui font essentiellement de l'information, du talk show, et les radios musicales. Et ça demeurera. Ce qui va changer, c'est les modes de diffusion, notamment avec la radio numérique. On prendra, et on prend déjà la radio sur Internet, mais il faudra toujours fabriquer de la radio, radio musicale d'un côté, et surtout cette radio, dans le bon sens du terme, parler avec de l'info, de l'information, et la radio reste quand même un instrument, et restera un instrument essentiel dans la diffusion de l'information, et puis tout ce qui est pas tout à fait de l'information, mais qui traite des sujets de société, qui sont les grandes émissions de talk show. Il y a la partie divertissement, c'est vrai qu'on ouvre aussi la radio pour s'amuser, pour écouter Ruquier, ou Canteloup, ou d'autres, et donc il restera les 3 branches, l'information, le divertissement, la musique. La seule question, c'est, est-ce que la radio pourra continuer à faire les 3? Il me semble qu'on ira peut-être vers plus de spécialisation, info, et peut-être divertissement, et de l'autre, musique. Mais, vous savez, hein, les pronostics à 5 ans ou à 10 ans, c'est vraiment le moyen de dire les plus grosses bêtises. Donc moi, je préfère m'arrêter là.
Merci Étienne Moujotte, cette émission est terminée. J'ai été très honoré de vous accueillir ici, dans cette maison qu'il a.
Moi, j'ai été très heureux de retrouver cette maison que j'aime tant.
Et tous les enfants d'Europe 1 l'auront senti et y auront été sensibles. Merci, on se retrouve dimanche prochain, bien sûr. Et d'ici là, comme j'ai désormais l'habitude de vous le dire, bonne fin de journée, bonne semaine et surtout, bonne radio.